Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Le joli mois de mai est arrivé et avec lui les concerts de clôture de beaucoup de saisons musicales, mais aussi les premiers festivals dans notre région. Il va y en avoir beaucoup jusqu'au mois d'août et nous allons nous faire un devoir et un plaisir de vous présenter la plupart d'entre eux. Il reste cependant aussi d'autres événements musicaux à vous annoncer. J'ai donc convoqué, encore une fois, pour participer à ce numéro, mon ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous sommes très heureux d'accueillir l'invité d'honneur de ce numéro, la danseuse Virginie Baillet d'Artigalong, dont je salue la première participation à Mélomanie. Virginie a de nombreuses activités outre sa carrière de danseuse et elle est notamment directrice de production de Camon en musique, dont la cinquième édition a lieu cette année, le week-end des 14 et 15 mai, dans ce ravissant village de l'Ariège situé sur les bords de l'Erse. Nous allons nous plonger avec elle dans la programmation de ce festival en seconde partie d'émission. Tout d'abord, petit regard dans le rétroviseur et sur l'actualité musicale récente, retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
La semaine dernière, le trop-plein d'actualité nous a obligés à zapper un certain nombre de concerts sur lesquels nous avions prévu de revenir. Ce numéro est donc l'occasion de nous rattraper et nous allons commencer par un retour sur la soirée proposée par la saison Toulouse Guitare. C'était le 15 avril à l'auditorium Marthe Condat de l'université Paul Sabatier de Toulouse-Rangueil. C'est le trio Cavalcade, formé par les guitaristes Jérémy Jouve et Mathias Duplessis et le percussionniste Édouard Prabu qui était en vedette. Un concert initialement programmé le 14 janvier et reporté en raison de la crise sanitaire. Serge Chauzy a pu y assister dans un lieu qu'il connaît bien, puisqu'il a longtemps enseigné à l'université Paul Sabatier. Soirée en deux parties, comme le veut la coutume de Toulouse Guitare, lors de laquelle un jeune guitariste a pu montrer ses talents avant le concert du trio Cavalcade. Alors c'était qui cette fois-ci ?
Oui, alors ce jeune musicien, cette fois, s'appelait Sacha Laurent. Il s'appelle toujours Sacha Laurent, d'ailleurs. Et vraiment, il faut souligner l'intérêt de cette démarche, systématiquement de faire écouter un jeune guitariste, de le libérer devant un public, quelquefois pour la première fois. Et donc c'est vraiment une belle initiative de la part de notre ami Thibaut Garcia, qui est l'organisateur, donc le fondateur.
Et le directeur artistique de Toulouse Guitare.
Alors, je voudrais quand même signaler que cet auditorium Marthe Condat n'est pas très fréquenté. Et que, pour ma part, c'était la première fois que j'assistais à un concert dans cet auditorium. C'est une très belle salle. Vraiment très belle, qui ressemble un peu à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines. Et je crois qu'il y a des possibilités pour certains organismes musicaux de s'y produire. Alors donc, ce jeune guitariste, donc Sacha Laurent, eh bien, il a présenté un programme tout à fait original. Vraiment très original. Avec d'abord des œuvres d'Alexandre Tansman, qui est un franco-polonais, dont on ne joue pas très souvent sa musique. Il a joué notamment sa cavatine avec trois mouvements et de manière absolument parfaite, hein, c'est-à-dire avec une musicalité, une technique évidemment très au point, puisque c'est quelqu'un qui travaille à l'ISDAT, hein, donc il est vraiment au point. Hein, donc bravo pour lui de cette cavatine très originale, dans un langage tonal, mais un langage vraiment plein de couleurs. Et ensuite, une œuvre, alors, encore moins connu, d'un certain Athanas Urkuzunov, qui est donc un musicien d'origine bulgare. Et là, il a joué ce qu'on appelle les Folk Song Variations, une pièce très virtuose et qui est dédiée d'ailleurs à Jérémy Jouve. Donc, évidemment, il y a un lien entre eux, une œuvre colorée, très belle, hein, qu'il a vraiment joué avec beaucoup de chaleur et beaucoup de finesse et de musicalité. Donc ça, c'était la première partie. Et puis, la deuxième partie, donc, nos trois compères qui forment le trio Cavalcade. Alors, c'est un trio qui est né en 2011, hein, initialement entre deux guitaristes, donc Mathias Duplessis et Jérémy Jouve. Alors, Mathias Duplessis, il se proclame musicien autodidacte. Mais c'est un autodidacte avec un niveau quand même très élevé et très impressionnant, puisqu'il ne se contente pas de jouer de la guitare, il chante aussi. Donc, tout en jouant.
Et il compose.
Et il compose surtout, surtout il compose, puisque la majeure partie des pièces qui étaient données par ce trio étaient donc de sa plume. Ce sont soit des pièces qu'il a adaptées, soit des pièces originales. Alors il a commencé par trois pièces, dont la première s'appelle « Le secret d'Hiroshige », puis « Le fil du temps », et enfin « Ballant de Paris », c'est-à-dire avec un certain écho brésilien pour la troisième pièce. Et donc, vraiment des pièces très originales. Il a une écriture très colorée, et surtout, ils se complètent parfaitement, les deux guitaristes, puisque Jérémy Jouve pratique un jeu à la fois classique, et grand et beau, vraiment très formel. Et alors que Mathias Duplessis, lui, il a de multiples facettes. Il joue de sa guitare comme d'une percussion. Il chante. Il pratique même le chant diphasique, ce qui est une chose incroyable.
Diaphonique, vous voulez dire?
Non, diphasique.
Ah, diphasique, c'est pas diphasique, le même alors.
Diphasique. Donc, vraiment un beau moment. Alors, là, parmi les trois premières œuvres de lui que le trio a jouées, il y avait donc « Le fil du temps » qui m'a personnellement ému parce qu'on a l'impression d'une plainte. Vraiment un chant très douloureux. Et puis alors par contre, « Ballant de Paris », alors là c'est avec des interventions à la fois frénétiques de la percussion. Alors, le percussionniste dont le nom est quand même Stéphane Edouard. Hein, donc,
oui, alors apparemment, c'est Edouard Prabhu, parce qu'il est franco-indien, voilà, sans doute voilà. Au départ. Alors, pourquoi il a un autre nom? Est-ce que c'est un nom d'artiste? Est-ce que c'est nom qu'il a pris en France? Je n'en sais rien.
En tout cas, sur le programme, il est mentionné donc, comme étant Stéphane Edouard. Et alors, c'est un personnage. Hein. D'abord, par son habillement, il était habillé, contrairement à ses deux compères, de manière très colorée. Et alors, il se déchaîne avec ses percussions, des percussions d'une coloration, de teintes.
Ce sont des percussions indiennes.
Oui, une grande partie des percussions indiennes. Oui. Alors, après ces trois premières pièces, il y a eu une sorte de pause avec la Gnossienne numéro 1 d'Eric Satie, évidemment, qui est une musique un peu planante, mais revue et corrigée quand même
par Mathias Duplessis,
oui. Qui a écrit des variations et des improvisations sur cette pièce. Vraiment magnifique. Ensuite, de nouveau, trois autres pièces de Mathias Duplessis. La première qui s'appelle Oulan-Bator, du nom de la capitale de la Mongolie. Alors là, on se retrouve.
Il a pas mal voyagé aussi, je crois, notamment dans ces contrées lointaines.
Oui. Et là, on évoque, cette pièce évoque un peu l'immensité de la steppe. Mongol.
Alors je crois que cette pièce évoque un cheval au galop, mais dans la steppe...
Dans la steppe gigantesque, immense, sans limite, de la Mongolie. Donc, très intéressant. Et puis ensuite, ils ont tout simplement joué leur pièce signature, qui s'appelle Cavalcade, évidemment, qui résonne comme une sorte d'engagement musical et amical entre les trois. Et enfin, ils ont terminé par une pièce d'allure sud-américaine, puisqu'elle s'appelle Samba Caval. Et donc là, on a le parfum rythmique des tropiques qui intervient. Donc, c'est un trio incroyable qui a été bruyamment acclamé par le public, je dois dire. Et ils ont offert un bis. Alors, on n'a pas su vraiment ce dont il s'agissait. Il a dit, Mathias, que c'était une chanson inspirée par une rencontre. Donc, on peut tout imaginer.
Alors là, c'est peut-être intime. Hein. Vous avez raison de ne pas lui poser la question.
En tout cas, bravo à eux pour cette vitalité et l'imagination qu'ils ont placée au service de leur musique.
Nous allons écouter maintenant le trio Cavalcade dans ses œuvres avec cette pièce composée par Mathias Duplessis, celle qui lui donne son nom, Cavalcade. Thank you. Cavalcade, pièce composée par Mathias Duplessis, interprétée par le trio Cavalcade. Notez que le prochain et dernier concert de la saison Toulouse Guitare a lieu vendredi 20 mai à 20h à l'église Saint-Jérôme. Il va être donné par la guitariste Gaëlle Solal. Mardi 19 avril, c'était le dernier concert de la saison des grands interprètes qui avait programmé à la Lograin le pianiste et compositeur turc Fazil Say avec la Camerata de Salzbourg. Serge Chosy y était encore. Il va se faire un plaisir de nous faire part de ses impressions et de nous rappeler d'abord les œuvres qui ont été jouées ce soir-là.
Alors, d'abord, la venue de Fazil Say, c'est toujours étonnant, parce que c'est quelqu'un de très particulier. Et je voudrais séparer d'ailleurs l'interprète du compositeur, parce que ce sont deux mondes différents. Alors le programme d'ailleurs est un bon reflet de cette dichotomie, puisqu'il y avait deux œuvres de Fazil Say et deux œuvres de Mozart. C'est un fanat de Mozart, Fazil Say. Il adore Mozart, en particulier, moi je conseille les auditeurs de rechercher sur internet la fantasy jazz sur la célèbre marche turque de Mozart. Ça, qui est un petit bijou, qui est vraiment quelque chose de formidable. Le marche turc en jazz, c'est très bien.
Et donc, il adore le jazz, Fazil Say.
Et puis quand même, il faut dire que la Camerata Salzbourg est une belle formation, dit orchestre Mozart, une trentaine de musiciens, avec une sonorité très particulière, qu'on appelle d'ailleurs la Camerata Klang, donc, qui a été probablement forgé par celui qui l'a longtemps dirigé, le Hongrois Sándor Weg, qui a été longtemps le directeur de cette formation. Voilà, on a eu donc un programme avec une association un peu étonnante, et qui a débuté d'ailleurs par la Chamber Symphony, opus 62, de Fazil Say, en trois mouvements enchaînés, avec une écriture très nettement modale et très orientalisante, donc avec des rythmes forts, rares, des passages intenses, parfois violents, qui alterne avec là encore avec une évocation d'une plainte. C'est vraiment une belle œuvre que pour ma part j'ai beaucoup appréciée. Au sein de cette œuvre, il y a une mémorable bataille entre les deux violoncellistes de l'orchestre. On a l'impression qu'ils se battent par instrument interposé, évidemment. Donc, très intéressant. L'autre partition de Fazil Say, je vais revenir sur Mozart, l'autre partition de Fazil Say, exécutée en deuxième partie, alors là, elle témoigne quand même. C'est une partition un peu politique, puisqu'elle témoigne de l'opposition du pianiste-compositeur vis-à-vis du régime dit obscurantiste turc, puisqu'il a eu de grosses démêlées avec le régime.
Précisons les choses, le régime de Recep Erdogan.
Oui, de Erdogan, évidemment, puisqu'il s'était déclaré athée, et là, c'était rigoureusement interdit, évidemment, en Turquie. Donc, la Camerata a joué une pièce qui s'appelle, excusez-moi la prononciation, je ne connais pratique pas le turc, Yürüyenköşk, qui veut dire la maison déplacée, et c'est un hommage à Atatürk. Et donc on comprend que cet hommage à Atatürk est dirigé contre Erdogan, et c'est une œuvre pour piano et cordes qui date de 2017. Et dans cette pièce, il illustre une anecdote soi-disant authentique de la vie de Mustafa Kemal, qui est le nom d'Atatürk. C'était un précurseur en écologie, et il a préféré déplacer la maison qu'il avait construite à l'ombre d'un platane plutôt que de tronçonner la branche de l'arbre qui menaçait sa maison. Donc il a préféré déplacer sa maison. D'où le titre « La maison déplacée ». Et alors, c'est une œuvre très poétique, très très belle, qui s'ouvre et qui se referme sur une sorte d'évocation des chants d'oiseaux suggéré par les cordes. C'est vraiment très très beau, une très belle œuvre, vraiment. Et intercalé avec ces deux œuvres de Fazil Say, il y avait deux œuvres de Mozart, dont le concerto numéro 12 pour piano et orchestre, avec comme soliste évidemment Fazil Say. Alors, à l'orchestre à cordes se joignent deux cors et deux hautbois, d'ailleurs qui jouaient magnifiquement, il faut vraiment le souligner, une précision, une musicalité exemplaire. Et là, le pianiste, alors autant le pianiste en dehors de l'estrade apparaît presque timide, autant sur l'estrade, alors c'est presque de l'exhibitionnisme. C'est-à-dire, il faut qu'avec les gestes, avec la tête, avec le regard, il prolonge la musique. Et donc, il a donné une exécution de ce magnifique concerto, une exécution totalement extravertie. Et tout son corps participe, donc j'avais même noté qu'il arrivait à jouer du piano debout, suivant une vieille chanson célèbre en son temps. Alors, un Mozart, parfois à la limite de la violence, donc c'était vraiment très étonnant. Et puis la deuxième œuvre de Mozart au programme, qui a terminé le concert, c'était la symphonie numéro 29, en la majeure. Alors là, une merveille, hein, avec la Camerata de Salzbourg, qui est dirigée, il faut le dire, par le premier violon, Grégorias, qui dirige l'œuvre depuis son violon, avec une attention, une implication vraiment de chaque instant. Grande finesse, intensité, énergie, joie, vraiment il y a tout. Il y a tout, c'est du vrai Mozart, comme on l'aime, Mozart champagne, pétillant. Et donc, c'était une belle initiative de la part de la Camerata et de Fasilse d'offrir au public un bis particulier. Là aussi, alors, la plupart des concerts qui ont été donnés depuis qu'on a appris la nouvelle du décès de deux grands pianistes, des deux grands pianistes que sont Nicolas Angelich et Radu Lupu, eh bien, à la fin de chaque concert, les bis leur sont offert.
Surtout lorsqu'il y a un pianiste.
Ils sont dédiés. Et là, évidemment, ils ont c'est Fasilse qui est venu jouer en bis le fameux Nocturne numéro 20, l'opus posthume de Chopin, qui était tout à fait en situation et qu'il a joué avec là une profondeur tout à fait touchante.
Très bien. Qu'il joue très bien.
Très, très bien.
Donc, le programme de ce concert va nous donner l'occasion d'écouter une des œuvres de Fasilse, jouée le 19 avril à l'Halle, au Grain, son hommage à Atatürk, Yürüyen Kosk, La Maison Déplacée. La première partie est intitulée Ein Dinlama, je ne garantis pas non plus la prononciation, c'est Fasilse qui l'interprète lui-même au piano. Ein Dinlama, la première partie de Yürüyen Kosk, l'hommage à Atatürk composé par Fasilse et interprété ici par le grand pianiste turc lui-même. Nous allons conclure ce retour arrière avec le concert donné par l'Orchestre National du Capitole, samedi 30 avril à la Halle au Grain, un concert du cycle Happy Hour qui présentait deux curiosités et deux intérêts, Serge, avec la chef chinoise Gan Zhang, c'était sa première à Toulouse, et celle de Christik Jessy qui est le super soliste, le violon super soliste de l'orchestre, mais qui œuvrait en tant que soliste pour interpréter le concerto pour violon en la mineur de Glazounov. Alors expliquez-nous un peu comment ça s'est passé, tout ça, et cette chef chinoise que j'avoue je ne connaissais pas du tout.
Ah non, non, bah, moi non plus. Ah, bah, c'est une chef donc très étonnante, toute petite, d'un dynamisme. Elle bondit sur son podium de manière à parfois à quitter le podium des pieds et retomber avec bruit. Donc elle est très énergique, vraiment très énergique. Mais la première œuvre qui était donnée ce soir-là, c'était donc le concerto en la mineur d'Alexandre Glazounov, un concerto qui date de 1904, qui a plusieurs sections enchaînées, hein, et qui mêle à la fois des éléments populaires tziganes et puis une virtuosité très exigeante pour le soliste. Et le soliste, c'était donc Krisztyk Jessy, qui a fait des merveilles. Dès son entrée, dès ses premières notes du moderato initial, c'est la plénitude sonore du violon qui domine. Et bien que l'orchestre soit très sonore, surtout sous la direction de cette chef donc chinoise, eh bien, il s'impose face à l'orchestre bien présent, hein. Donc, une grande beauté, un style à la fois sûr, techniquement parfait, et puis ça ne manque pas d'obstacles avec des doubles cordes, des sons harmoniques, et qu'il donne avec une perfection technique absolue. Et donc, c'est vraiment un virtuose profondément musicien, ce qui fait plaisir. On le sait déjà. Hein.
Nous, on le savait.
Oui.
Je pense que c'est bien de lui avoir donné sa chance. Si je puis dire, de montrer ce qu'il savait faire en tant que soliste dans un concerto comme celui-ci, qui est magnifique en plus.
Qui est magnifique et qui est rarement donné. Et alors là, on a surtout apprécié le final, Allegro, qui est à la fois pétillant, héroïque, et donc avec un beau dialogue entre le violon et puis les interventions solistes au sein de l'orchestre. Donc vraiment, bravo à lui, il a fait des merveilles là. Il a été très applaudi par le public, évidemment, et par ses collègues, il faut le dire.
Il joue à domicile.
Et bien sûr. Et donc il a donné un bis, et il a donné comme bis le célèbre Caprice numéro 1 de Paganini. Évidemment, là il jouait sur du velours, si l'on peut dire, parce que la difficulté n'est pas mince. Hein. Donc magnifique. Et puis ensuite, on a eu droit à une vision particulière de la 7e symphonie de Beethoven, qui était considéré par Wagner comme la danse dans son essence suprême. Voilà ce qu'a écrit Wagner. Et donc, la danse est au centre de la structure, effectivement. Mais alors, on doit dire que cette jeune musicienne, Xiang Zhang, eh bien, comment dire, elle souligne surtout la vigueur des accents, l'énergie des contrastes, l'intensité des tutti. Vraiment, c'était flamboyant, presque trop, avec le choix de tempi tous très rapide, mais qui s'entend d'ailleurs, hein, c'était pas exceptionnellement rapide. Mais l'allegretto en particulier, elle l'a joué, elle l'a dirigé dans le sens de l'allegretto, c'est-à-dire un sens qui avance, ce qui est très justifié. Mais alors les deux mouvements finaux, c'était une explosion, complètement. En plus, son agitation chorégraphique soulignait un peu l'énergie qu'elle a mis.
Surenchérissait l'impression sonore.
Alors bon, admirons l'énergie et la tension qu'elle met dans son interprétation, mais il est un peu dommage que cette tension ne soit pas contrebalancée par certaines détentes. Tension, détente, c'est quand même un peu, la chose la plus importante en musique. Donc, ça manquait un peu de respiration, mais ça ne manquait pas d'énergie, ça c'est certain.
En tout cas, ça a plu au public.
Beaucoup. Le public a applaudi, vraiment a été tout à fait conquis. Un public qui est un public avec beaucoup d'enfants, d'ailleurs. Hein,
mais oui, les happy hours, c'est familial.
18h, donc les familles viennent. On entend quelquefois des petits cris d'enfants pendant les exécutions. Mais ce n'est pas gênant, c'est normal.
Ce sont des cris d'enthousiasme.
Et c'est bien, et c'est bien. Et c'est bien que cette série existe. Hein.
Alors, vous l'avez rappelé, Serge, le concerto pour violon en la mineur de Glazounov est rarement joué, bien que très beau. Alors, pour vous en convaincre, voici un extrait de son premier mouvement moderato avec le grand Yasha Heifetz au violon.
Thank you.
Le magnifique premier mouvement moderato du concerto pour violon en la mineur d'Alexandre Glazounov, interprété par Yasha Heifetz, une des deux œuvres au programme du concert donné par l'Orchestre du Capitole et Christik Jessy, sous la direction de la chef chinoise Gan Zhang, samedi dernier à la Halle aux Grains, dans le cadre du cycle Happy Hour. Prochain concert de l'ensemble symphonique toulousain le samedi 6 mai. Nous allons vous le présenter un peu plus tard dans cette émission. Pour l'instant, petite virgule musicale, avant de retrouver dans quelques secondes Serge Chosy et Virginie Baillet d'Artigalong, notre invité d'honneur. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec la danseuse Virginie Baillet d'Artigalong, directrice de production du festival Camon en musique. La cinquième édition a lieu le week-end des 14 et 15 mai prochains. Avant de parler du festival et de sa programmation avec vous, je vais rappeler que vous êtes diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, que vous avez collaboré en tant que danseuse avec des compagnies aussi prestigieuses que le Ballet du Capitole de Toulouse, le Ballet de Lorraine, les Ballets du Rhin, ce Opéra de Rome, ainsi que le Ballet Royal de l'Opéra de Versailles. Rien que ça, apparemment, ça ne vous destinait pas forcément à être directrice de production d'un festival tel que Camon en musique, dans ce joli village ariégeois, je me répète, mais vraiment, ça vaut le coup aussi d'y aller, rien que pour le découvrir si vous ne le connaissez pas. Racontez-nous un peu la petite histoire de cette manifestation et la vôtre en même temps.
Alors bonjour et merci de me recevoir ici. Je suis actuellement directrice de Kiwi Productions, qui est une agence artistique que je dirige maintenant depuis 2 ans, que j'ai créée à la suite d'une envie de me reconvertir, parce que la carrière de danseuse est assez courte, et passé 30 ans, on est à la retraite. Et donc cette voie que j'ai choisie a été assez naturelle pour moi, puisque j'ai toujours eu envie d'accompagner les artistes, de les aider dans leurs projets, quels qu'ils soient. Et en fait, les 2 ans un petit peu surprenants que nous venons de traverser ont été très bénéfiques pour ma société, puisqu'en fait, les artistes ont eu du temps et se sont posés et se sont tournés vers la création. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne une trentaine d'artistes et une trentaine de créations différentes dans des horizons et des esthétiques
très variées,
voilà, pour répondre un petit peu aux différentes demandes des programmateurs. Et donc, ça va du classique au contemporain, aux musiques actuelles, au jazz. Donc, il y a pas mal d'artistes toulousains que vous connaissez. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, Sébastien Gisbert, Grégory Daltin, pour les plus grands noms, Guillaume Desque, que d'ailleurs nous allons retrouver.
Oui, on va en parler, Guillaume Desque.
Voilà, Guillaume, du coup, que nous allons retrouver à ce festival, le festival Camon en musique, qui fête sa cinquième édition cette année. Donc, on est très fiers de pouvoir avoir cette année, pour cette cinquième édition, la grande et talentueuse musicienne et maintenant chef d'orchestre Sophie Dervaux, qui est actuellement basson solo à l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Elle est donc invitée en tant que marraine et en tant que chef d'orchestre et musicienne pour cette édition.
Alors votre lien avec Camon, parce que vous êtes plutôt du Gers, je crois.
De région parisienne.
Alors, région de Versailles. Mais le nom est originaire.
Le nom d'Artigalong.
D'Artigalong, parce que je pense qu'il y en a même à Toulouse, donc s'ils nous écoutent, bonjour à tous les d'Artigalong de la région. Camon, comment vous êtes arrivée comme directrice de production dans ce festival bien particulier?
Alors, je me suis associée à un musicien, à un ancien musicien de l'Orchestre National du Capitole, qui s'appelle Aymeric Fournès, qui était tromboniste et qui est maintenant musicien à l'Orchestre de Lille. Et lui, il est originaire de Camon.
Il est vraiment de Camon, lui. Hein.
Il est vraiment de Camon. Et donc, en fait, on avait eu cette idée, il y a 5 ans, de permettre aux Ariégeois de redécouvrir ou de découvrir un monde, notre monde, au départ classique. Et après, pour répondre à des demandes, voilà, encore une fois, du public, on a proposé une programmation un petit peu éclectique. Et du coup, dès la première année, on a jonglé entre une programmation très classique, du baroque. La première année, nous avions fait venir des musiciens de l'Orchestre National du Capitole avec un ensemble de violoncelles. Il y avait eu la main harmonique. Voilà, et après, petit à petit, on a jonglé, voilà, et pour pouvoir proposer une programmation qui plaise à tout le monde. Et donc, cette année aussi, on propose de la musique du monde avec du coup, Guillaume Desque, qui vient avec de la vie à la roue. Ouais, et qui sera présent le dimanche. Guillaume est assez surprenant et étonnant.
C'est extraordinaire. Vous pouvez d'ailleurs écouter ça et regarder ça d'ailleurs en même temps sur YouTube. Vous tapez Guillaume Desque, vous verrez ce qu'il fait avec une vie à la roue. Alors, il y a un événement sur lequel se greffe le festival. Il faut qu'on en parle tout de même. C'est la fête des roses. Ça, c'est ancien à Camon. Et oui. C'est célèbre.
La Fête des Roses fête sa 19e édition cette année. Elle accueille sur le week-end à peu près 5000 personnes. Donc pour un petit village de 110-130 habitants à l'année, c'est assez exceptionnel. Donc tout le village est en effervescence et cette touche musicale que nous apportons ne fait que rayonner encore plus et fait bouillonner toute cette énergie. Donc les Arégeois viennent nombreux. Et on espère du coup que vous serez là.
Mais
aussi.
Les Toulousains aussi peuvent venir, bien sûr. Aussi. Et tous les gens qui habitent dans ce coin, autour de ce coin de l'Ariège. Donc Camon, qui fut un haut lieu du catharisme, c'est un tout petit village, 150 habitants aujourd'hui. Donc la Fête des Roses, c'est tous les troisième dimanche de mai chaque année. Voilà, c'est une date bien fixe. Et vous, le festival, c'est forcément en même temps. Donc cette année, ça tombe les 14 et 15 mai. La programmation, comment vous l'avez conçue? Est-ce qu'il y a une thématique particulière chaque année? Ou est-ce que, comme vous l'avez dit, le but, c'est de proposer quelque chose de très éclectique au public?
Alors, la thématique a été construite avec la marraine du festival, donc Sophie Dervaux, et Aymeric Fournes, le co-directeur artistique. Et donc, cette année, on a décidé de faire appel à l'ensemble des sacs-boutiers de Toulouse, qui sont très connus, donc je n'ai pas besoin de parler beaucoup d'eux.
Surtout devant Serge Chosy, qui ne les connaît pas du tout. Lui.
Mais par contre, c'est la première fois qu'ils vont être dirigés par Sophie. Sophie Dervaux, du coup, comme j'en parlais tout à l'heure, qui a des talents de musicienne, se tourne vers la direction et vient de sortir un album il y a quelques jours où elle dirige un ensemble autrichien. Et donc cette année, elle se lance ce défi et donc elle va diriger l'ensemble des sacs-boutiers pour proposer les fêtes de Saint-Marc à Venise. Voilà, donc ça, ce sera le concert du samedi soir, le samedi 14 mai. Et après, le lendemain, elle posera sa baguette pour venir proposer un duo avec Yasuko Bouvard au clavecin et basson, cette fois-ci, pour proposer des œuvres de Telemann et de Vivaldi.
Alors, on va y revenir parce que je voudrais qu'on fasse déjà une première pause musicale dans la présentation de cette programmation avec les sacs-boutiers, bien sûr. Ce programme Fête vénitienne, vous le connaissez, vous, Serge Chosy, parce que vous avez assisté à sa naissance, si on peut dire. Mais
exactement.
Finalement, comment ça datait? Parce que c'était il y a 8 ans.
Oui, exactement. Exactement. Il y a eu un CD avec ce programme.
Venise sur Garonne.
Et puis, alors, s'il y a quelqu'un pour diriger, c'est aussi parce que les sacs-boutiers sont très nombreux pour ce programme, puisque le programme est consacré à Giovanni Gabrieli, avec des canzones de Giovanni Gabrieli, dont certaines sont à 4, 5, 6 voix, chaque voix comprenant 3, 4, 5 musiciens. Donc vous voyez la quantité de musiciens nécessaires. Ça se démultiplie. Donc c'est vraiment rarement que l'on entend les sacs-boutiers avec un effectif aussi nombreux, aussi pléthorique. Et donc on est très heureux de les entendre dirigés, donc cette fois, par une grande musicienne par ailleurs. Donc on est très heureux de ça.
Eh bien, nous allons écouter un extrait de ce programme Venise sur Garonne, qui avait fait l'objet donc d'un enregistrement par les sacs-boutiers en 2014. Il joue ici la canzone CH195 numéro 1, je crois que c'est à 5 voix, de Giovanni Gabrieli.
Thank you.
La canzone CH195 numéro 1 de Giovanni Gabrielli, interprétée par les Sacs Boutiers, un extrait de leur CD et de leur programme Venise sur Garonne, qui devient les fêtes vénitiennes à Camon. Il sera donné le samedi 14 mai à 20h30 à l'église. Ça me vient, justement, je me disais, les lieux du festival, il y a l'église de Camon, il y en a un autre.
Alors, il y a deux lieux. Le gros concert, du coup, pour cette cinquième édition, c'est donc à l'église de Camon. Et le lendemain, le dimanche, pendant la fête des roses, c'est dans un cloître d'une magnifique abbaye, qui du coup un cloître dans un cadre intimiste, en extérieur, qui accueille un peu plus d'une centaine de personnes. Et après, il y aura un troisième lieu, c'est donc dans tout le village, puisqu'en fait, il y aura des balades musicales sous forme de déambulation, avec tous les artistes du festival, du coup, qui vont mélanger un petit peu sous une forme de bœuf.
Ça, c'est le dimanche toute la journée.
C'est le dimanche
le
toute la journée.
Mai, à travers les étals de roses, parce qu'évidemment, il y a des étals de roses un peu partout, et ils vont jouer. Je crois qu'il y aura des danses espagnoles, enfin des choses très ensoleillées, de saison, et voilà, un peu dansantes, je suppose. En tout cas, c'est quelque chose qui devrait plaire au public. Alors, on a parlé du concert du 15 mai à 14h, là c'est au cloître, ce concert dégustation, parce que c'est un concert dégustation avec Sophie Dervaux au basson, accompagné par Yasuko Bouvard au clavecin. Et ça va être une première entre les deux musiciennes.
Tout à fait, ce sera une première. Et ce concert, on s'associe pour la quatrième fois au maître chocolatier Criollo, qui est un maître chocolatier toulousain.
Jean-Pierre Dujon Lombard.
Exactement, qui se réjouit encore une fois de venir et en fait qui propose une création exclusive en direct. Et du coup, qui permet au public de mêler deux passions, deux saveurs en même temps. Donc, il crée le chocolat en même temps que le public écoute la musique.
Ils sont délicieux, les chocolats de Jean-Pierre Dujon Lombard et de la maison Criollo. Et je suis certain qu'il y aura des chocolats à la rose. Il doit savoir faire ça.
Tout à fait.
Voilà, donc le programme de Sophie Dervaux, Yasuko Bouvard, Vivaldi, Telemann et alors un dénommé Dard, D-A-R-D, qui ne doit pas être Frédéric, le créateur de Sant'Antonio. Je ne sais pas qui c'est.
J'imagine.
Ça va être une découverte, ça.
Oui.
Mais c'est un baroqueux aussi, comme les deux précédents, comme Vivaldi et Telemann. A priori, oui.
Oui.
Français, sans doute.
Tout à fait. Et du coup, c'est un programme exclusivement pour ce cloître. Hein. Et c'est une première
qui
pour la
réunion.
Qui est
monté pour l'occasion. Réunit les deux musiciennes pour l'occasion. Ça c'est vraiment, ça va être un moment de ne pas rater, parce qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres.
Hein. Une exclusivité, là. Bravo.
Ah oui, hein. Deux musiciennes extraordinaires. Ah ouais. Rien que leur rencontre, déjà, je trouve que ça vaut le coup. Et donc, alors, le dimanche 15 mai à 16h, juste après le concert de Sophie Dervaux et Yasuko Bouvard, toujours au cloître de l'abbaye, le concert de Vie à la roue de Guillaume Desque. Ça ressemble à quoi la musique de Guillaume Desque? Qu'est-ce qui fait qu'une vielle à roue, il joue seul?
Guillaume Desque joue seul, bien que maintenant il soit avec des percussions à ses pieds. Donc du coup, ça fait qu'il démultiplie les sonorités musicales. Au départ, du coup, la vielle à roue, c'est un instrument traditionnel. Mais en fait, maintenant, on le classerait plutôt en musique actuelle fusion. C'est un concert qu'il présente là sur le mois de mai une dizaine de fois dans des lieux différents. Il a une carrière de soliste voilà, international. Et du coup, ce concert, c'est complètement atypique puisque ça part de chants traditionnels après qu'il a revisité et il a composé aussi des œuvres. Voilà. Donc, c'est une pièce.
Donc, il associe, il y a des improvisations, il y a, oui, des influences de la musique d'aujourd'hui, hein, même de la world music peut-être. Il est basé où d'ailleurs? Il est à Toulouse?
Il est à côté de Toulouse, à Grépiac.
D'accord. Voilà. Et il est tout jeune, c'est un tout jeune musicien.
Oui, il a 33 ans, pour être précis.
Voilà, alors ça va être une expérience, je pense, pour tous ceux qui vont pouvoir assister à ce concert, donc le dimanche à 16h dans le cloître de l'abbaye. Alors, pour terminer ce tour d'horizon de la programmation de la 5e édition de Camon Musique, je propose qu'on écoute la marraine du festival, Sophie Dervaux, qui va donc se produire accompagnée par Yasuko Bouvard au clavecin, dans un programme le dimanche 15 mai à 14h au cloître de l'abbaye, de sonates pour basson de Vivaldi, Telemann et donc d'art. On cherchera le prénom. Je n'ai évidemment aucune de ces sonates jouées par Sophie Dervaux à vous faire entendre, encore moins associée à Yasuko Bouvard, mais j'ai un extrait de son CD Impression, paru il y a un an, et constitué d'œuvres de Debussy, Saint-Saëns, Fauré, Reynaldo Hahn, quelques autres compositeurs de cette période, transcrites pour le basson et le piano, parce qu'évidemment, elles ne sont pas écrites pour ces deux instruments à la base. Eh bien, par exemple, je vous propose d'écouter Clair de Lune, le fameux Clair de Lune de la suite Bergamasque de Claude Debussy. Thank you. Le fameux Clair de lune de la suite bergamasque de Claude Debussy, transcrit pour basson et piano et joué donc par Sophie Dervaux et Salim Mazari, un extrait de leur CD Impression paru en 2021 sous le label Berlin Classique. Voilà pour la programmation de la 5e édition du festival Camon en musique, à découvrir les 14 et 15 mai en Ariège. Et pendant qu'on écoutait ce morceau, eh bien on a cherché qui était ce compositeur nommé Dard, et bien c'est Antoine Dard, né en 1715, mort en 1784, qui était bassoniste et compositeur. Voilà, on aura tous appris quelque chose lors de cette émission, je pense que beaucoup de nos auditeurs aussi. Serge Chauzy, il y a d'autres événements d'ici le Festival de Camon, pas plus tard que ce samedi 6 mai, où l'Orchestre National du Capitole est en concert à 20h à la Halle au Grain, sous la direction du chef américain Joseph Svensson, une vieille connaissance. Une seule œuvre au programme, mais quelle œuvre!
Oh là là, oui, c'est la dernière symphonie achevée de Gustav Mahler, c'est-à-dire la 9e, qui est une pure merveille, qu'il avait déjà d'ailleurs dirigée ici il y a quelques années pour commémorer la mort, la date de la mort de Gustav Mahler. Et donc, c'est un chef très habitué à l'orchestre, évidemment, et que l'orchestre aime beaucoup. Et donc là, il vient. Alors, il est chef. Il a des titres incroyables. Il est chef d'une Nordwest Sinfonietta, directeur artistique de l'orchestre du Forum national de musique de Wroclaw. Il est également chef honoraire du Scottish Chamber Orchestra. Enfin, il est partout.
C'est un cumulard.
Un cumulard, oui. Et c'est un violoniste. Il faut quand même savoir qu'il a débuté sa carrière comme violoniste, mais il est également compositeur. Alors là, en l'occurrence, on l'aura comme chef d'orchestre, puisque la 9e symphonie de Mahler, c'est un sacré morceau, hein, en 4 mouvements, que Mahler a conçu dans une période particulièrement difficile de sa vie.
Il en a eu plusieurs, malheureusement.
Ah oui, il a un problème de santé, décès de sa fille Maria, de 4 ans. Bon, donc, il a écrit cette symphonie qui est un peu dédié à la mort, à l'au-delà.
Œuvre crépusculaire, on ne peut pas trouver d'adjectif qui lui correspond mieux que celui-ci.
Absolument. Donc, d'ailleurs, à propos de cette symphonie, il disait au chef d'orchestre qu'il a créé, Gustav Mahler, qu'il a créé après la mort de Mahler, d'ailleurs. Et ce chef d'orchestre, c'est Bruno Walter. Et donc, il lui disait « Je ressens avec force qu'il n'existe même pas de question ». Donc c'est vraiment désespérant. Et c'est une œuvre d'une beauté absolue, hein. Purement instrumentale, et après les incursions vocales de Mahler dans la 2e, la 3e, la 4e et la 8e symphonie. Et donc une symphonie, un chef-d'œuvre absolu, donc avec une structure très différente. Deux mouvements lents qui encadrent deux mouvements rapides.
Non, c'est vraiment une œuvre à part.
Ah, complètement à part. Donc il faut vraiment y assister. Et Joseph Svensson est un fanatique de Mahler, puisqu'il voulait enregistrer l'intégrale des symphonies de Mahler à la tête de l'Orchestre national du Capitole.
Pour illustrer ce programme et cette 9e et ultime symphonie de Gustav Mahler, voici son premier mouvement Andante Commodo dans une version dirigée par Claudio Abbado.
Thank you.
poignant, déchirant premier mouvement andante commodo de la symphonie numéro 9 de Mahler dans une version de l'orchestre du Festival de Lucerne dirigé par Claudio Abbado, mais c'est donc l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Joseph Svensen qui va la jouer ce samedi 6 mai à 20h là à Logrin lors d'un concert dont c'est l'unique œuvre au programme. Certes, nous allons retrouver les musiciens de l'Orchestre du Capitole le lundi suivant, le 9 mai à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines pour ce qui va être le dernier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. Et là, il ne va pas y avoir une seule œuvre au programme, loin de là, lors de cette soirée intitulée « Du côté de chez Ludwig ». Ah, on voit chez qui on va être, à peu près.
Bah oui, il y a du Proust là-dedans. Hein. Donc, oui, alors il y aura trois œuvres, dont deux de Beethoven et une, on ne sait pas, autour de Beethoven. Alors, les œuvres de Beethoven, c'est le quatuor numéro 7 en fa majeur, quatuor à cordes, et l'autre œuvre, c'est le sextuor en mi bémol majeur pour quatuor et deux corps. Œuvre rare, hein, qu'on entend très, très, très rarement sur les, dans les concerts. Et puis, entre les deux, il y aura ce qui est noté, plaisanterie musicale autour de Beethoven pour deux corps et quatuor à cordes, donc le même effectif que le sextuor. Et c'est un arrangement qui est dû à Jean-Pierre Bouchard, qui est corniste lui-même et qui joue souvent avec le pupitre de corps de l'Orchestre National du Capitole. Et donc, des plaisanteries autour de Beethoven. Et les quatre musiciens, les six musiciens, pardon, qui jouent ce soir-là.
Quatre puis six. Hein,
quatre
un
plus deux.
Un sextoir,
voilà. Voilà, oui, oui. Donc, le quatuor à cordes sera constitué de Laura Jaillet et Alexandre Dalbigo, les deux violons, Laura Esminger, alto, et Aurore Dassès, violoncelle. Et puis, donc, les quatre...
Les deux cornistes.
Seront rejoints par deux cornistes, bien connus, Jacques Deleplanque et François Lugue, qui sont deux des piliers du pupitre de corps de l'Orchestre National du Capitole. Donc, des choses intéressantes.
Le sextuor mi bémol majeur de Beethoven est une petite merveille, alors nous n'allons pas nous priver d'en écouter un extrait. Voici son premier mouvement, Allegro con brio. Le premier mouvement Allegro con brio du sextuor en mi bémol majeur de Beethoven, une des œuvres au programme du dernier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre, lundi 9 mai à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines bien sûr. La soirée est intitulée du côté de chez Ludwig et vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. Fin de cette émission, merci beaucoup à Serge Chosy de l'avoir animé à mes côtés et à Virginie Baillet d'Artigalong d'en avoir été l'invité d'honneur et de nous avoir présenté la programmation de la 5e édition du festival Camon en musique. Elle a lieu les samedis 14 et dimanche 15 mai dans ce magnifique village de l'Ariège qui vaut lui aussi d'être découvert. Il y a trois concerts durant le week-end. Fête vénitienne avec les Sacboutiers samedi 14 à 20h30 à l'église de Camon. Puis un concert dégustation dimanche 15 à 14h dans le cloître de l'abbaye avec la bassoniste Sophie Dervaux et la claveciniste Yasuko Bouvard. Et enfin un concert de vielle à roue au même endroit à 16h par Guy Hendesk. La billetterie est en ligne à l'adresse www.lloasso.com, Festival Camon en musique. Je rappelle enfin le concert de l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Joseph Svensson, samedi 6 mai à 20h à la Halle au Grain, où l'ensemble symphonique toulousain va jouer la 9e de Mahler. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci encore de votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.